Paris reçoit à la fois La Rochelle et Lille. Je ne parle pas d'un match de foot, mais de festival. Le festival de fiction de La Rochelle s'invite dans la capitale, un festival dans un festival, car le festival Rochelet, qui se tient exceptionnellement à Paris, accueille demain le festival international Sérimania, qui se tient d'habitude à Lille. Vous me suivez? Vous allez nous suivre. Bonjour Stéphane Strano.
Bonjour.
Vous êtes le président du festival de fiction de La Rochelle, qui se tient, donc je l'ai dit, exceptionnellement à Paris. Benjamin Rocher, face à vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le créateur et réalisateur de la mini-série Moa, qui sera diffusée sur OCS le 1er octobre et, d'où votre présence ici, présentée en avant-première vendredi au Festival de La Rochelle à Paris. Stéphane Strano, pourquoi délocaliser le Festival de La Rochelle? En quoi était-il plus facile de l'organiser à Paris qu'à La Rochelle?
Pour plusieurs raisons, je vais essayer d'être clair et de les expliquer.
Déjà, la première question, la raison sanitaire, est-ce qu'elle n'est pas plus inquiétante dans la capitale qu'à La Rochelle?
Elle est tout aussi inquiétante à La Rochelle que dans la capitale. L'idée, c'était de pouvoir se retrouver, que la profession se retrouve. Le festival, depuis 22 ans, est un grand festival populaire avec du public. Nous n'aurons pas de public cette année parce que nous n'avons pas d'œuvre. Le confinement, les diffuseurs qui diffusent, il n'y a pas d'œuvre en sélection cette année. Donc on a un festival qui ne représente cette année que les professionnels autour de toutes les questions qui vont concerner le public dans quelques années parce qu'il s'agit de parler de l'avenir de la profession et de l'audiovisuel.
Alors en quoi vont consister ces 3 jours?
3 jours de réflexion, 3 jours de fraternité. Vous parliez de Sérimania.
Oh, dis donc, on dirait les JMJ. Non mais voir des programmes quand même.
On espère bien construire l'avenir avec un peu plus de fraternité, si on le peut. Ouais. J'ai pris langue avec Laurence Herzberg, la directrice générale de Sérimania, en lui disant votre festival a été annulé, c'est une chose terrible. Si vous avez des choses à présenter, si vous avez des missions à poursuivre, vous pouvez le faire sur le terrain du festival de la Rochelle où qu'il se trouve. Cette année, ce sera à Paris. On va accueillir la résidence d'écriture franco-israélienne de Sérimania, aux côtés des rendez-vous de la création francophone du Festival de La Rochelle. Et on va accueillir No Man's Land, qu'on présentera Sérimania et le Festival de La Rochelle pour Arte dès mercredi soir.
Je le rappelle, Sérimania qui se déroule habituellement à Lille. Il y aura quand même un festival à La Rochelle où tout est reporté à 2021.
On essaie de s'organiser autour de cette crise sanitaire qui nous pose énormément de difficultés pour faire notre travail, pour tourner des films, pour fabriquer des histoires. Et c'est vrai qu'on trouve des solutions comme on
souhaite. Non mais là, les Rochelais qui nous écoutent, ils vont pouvoir voir quelque chose
Rochelais, ou... Les Rochelais, on les retrouve au mois de décembre. Et j'en ai discuté avec Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle. Et on se retrouve pour des projections d'œuvres en présence des équipes. Et c'est quelque chose qu'on va appeler un festival hors saison qui va avoir lieu en décembre cette année, mais qui aura lieu en avril l'année prochaine, avant de retrouver la grande édition du Festival de La Rochelle à La Rochelle.
Demain, il y aura une journée spéciale consacrée au Festival Sérimania. Ça consiste en quoi, Stéphane Strano?
Alors, demain, on a une journée qui n'est pas tout à fait destinée à Sérimania, mais qui est... avant tout destiné à la création française,
ouais.
Avec l'ouverture d'un grand débat en présence de toutes les équipes de Netflix et de Damien Couvreur qui interviendra aux côtés de Fabrice de la Patellière.
Qui est Damien Couvreur?
Damien Couvreur, un des responsables de Netflix France, et qui va nous parler de la nouvelle manière de créer en France, puisque de nouveaux acteurs arrivent, comme vous les connaissez tous, des plateformes. Il va falloir travailler avec eux. On va pouvoir s'expliquer sur la création, et c'est un moment important. La soirée Arte sera effectivement une soirée commune avec Sérimania, un moment où on va présenter, où Laurence Herzberg aura le soin de nous présenter ce qu'est son label Sérimania que porte la série No Man's Land pour Arte, et ça va être un grand moment.
Vendredi, on va pouvoir voir les 2 premiers épisodes de Moa, M-O-A-H, série comme ça. Benjamin Rocher, vous êtes le créateur et le réalisateur de cette mini-série. Avant que vous nous en parliez, extrait sonore. Comme dit mon réalisateur Nicolas Souvent, très grand moment de radio. Que se passe-t-il dans cette scène, Benjamin Rocher? On est dans Moa, qu'est-ce qui se passe là?
Ah, c'est le début du premier épisode.
Ouais, on voit bien le début, on sent bien le début.
C'est bien le début.
Ça démarre fort.
Bah, c'est comme à l'époque, à mon avis, l'époque, il y a 45 000 ans, on situe un petit peu l'histoire à ce moment-là.
Ouais. Attendez, juste le pitch est formidable.
Allez-y.
Le pitch de la série, c'est la préhistoire d'un mec, il y a 45 000 ans.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est le début de la série et c'est assez compliqué de faire une série de la préhistorique et de faire quelque chose.
Non mais là on peut dire ce que c'est.
Qui soit, oui bien sûr.
C'est une agression sexuelle.
Tout à fait, mais justement je voulais contextualiser un tout petit peu.
Oui oui.
Il faut mettre le spectateur dans une position où moi j'ai envie qu'il croie à la période. Donc si on veut croire à la période de la préhistoire, le spectateur il faut lui donner ce qu'il attend dans un premier temps, qu'on lui dise. Ça rigolait pas, il y avait des actions sexuelles, il y avait des décapitations, il y avait de la violence, il y avait plein de choses comme ça auxquelles on s'attend pour cette période-là. Et moi, c'est mon entrée dans la série qui me permet d'amener le spectateur après, de le prendre par la main et de l'amener vers des choses qui m'intéressent plus, comme l'humain, comme la tendresse, comme l'amour, comme la veulerie, etc. Tout ce qu'on va développer dans la série.
Vous savez quoi ? Vous savez ce qui va se passer après ? Ben justement, restez avec nous, vous allez savoir ce qui se passe après dans la série. À tout de suite dans Culture Média.
Vandel.
En compagnie de Stéphane Strano, le président du Festival de Fiction de La Rochelle qui se tient exceptionnellement à Paris. Et puis Benjamin Rocher, il est le créateur et réalisateur de la mini-série Moa qui sera disponible sur OCS à partir du 1er octobre mais déjà présenté vendredi en avant-première au Die Festival. Je me tourne vers vous à nouveau Benjamin Rocher. Que raconte la série Moa dont on a entendu le son
Des borborimes,
on a entendu une agression sexuelle suivie de ce gros cri, c'était une décapitation, je la fais très très mal. Que se passe-t-il ensuite puisque nous avez promis vous aussi de la fraternité?
Tout à fait. Donc ça raconte l'histoire d'un autre personnage principal qui s'appelle Moa, M-O-A-H, et c'est l'histoire de ce sorte de vilain petit canard dans une tribu d'hommes préhistoriques de l'époque et qui comment il va réussir à trouver sa place. Comment il va réussir à pas se faire manger, comment il va réussir à transformer sa différence en force. Et voilà, tout son parcours. Donc il va rencontrer l'amour, il va rencontrer plein de choses comme ça.
Se faire manger au sens propre ou au sens figuré?
Les deux.
Et il y a des cannibales dans votre série?
C'est-à-dire que mon avis, c'est peut-être compliqué de se nourrir parfois dans certaines zones du globe à cette époque-là. Donc oui, effectivement, il y a des personnages qui passent par là.
J'aurais qu'on dise un mot de la particularité formelle de la série.
Oui.
Les dialogues.
Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de dialogue.
Ouais, et la musique?
En tout cas, le dialogue, c'est vraiment des mots. C'est encore moins que dans La Guerre du Feu. Je pense qu'il doit y avoir 12 mots, entre guillemets, dans toute la série. Mais s'exprimer autrement, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de béquilles narratives, il n'y a pas de musique narrative non plus.
Pourquoi?
Parce que,
puisque vous faisiez référence à La Guerre du Feu, il y a beaucoup de musique dans La Guerre du Feu.
Tout à fait.
Qui porte le récit.
Absolument.
Là, vous prenez le choix éditorial, si j'ose dire, de ne pas mettre de musique, donc de ne pas être aidé par cette autre béquille.
Parce que je ne voulais pas qu'on ait de la distance par rapport au personnage. On a l'habitude de voir les hommes préhistoriques comme des gros débiles avec leurs maillets qui tirent leurs femmes par les cheveux, etc. Or, ce n'était pas ça, c'était des vrais êtres humains, des vrais hommes, etc. Je voulais vraiment que le spectateur se mette à leur hauteur. Donc, je voulais qu'il soit vraiment en immersion dans la série. Donc, ça veut dire que on a soigné tous ensemble très fort le visuel, le son, pas de dialogue, pas de musique pour forcer les spectateurs à se mettre à leur hauteur et je pense que ça force à passer un beau voyage en leur compagnie.
Et puis un petit mot pour Stéphane Strano, du coup ça coûte pas cher à l'export. Il y a pas de doublage à refaire.
Bah c'est vrai que c'est un sujet international
il y a pas besoin de doubler.
Bah c'est ça, c'est universel.
Comment avez-vous travaillé? Je veux dire, est-ce que tout ce que vous montrez est réaliste? Par exemple, il y a 45 000 ans, l'homme ne savait pas parler?
Alors ça, on n'en sait rien du tout. Ce qu'on sait de l'époque, c'est qu'il y avait le larynx à certains endroits, les cordes vocales, ceci, cela, en fonction des découvertes, mais on ne sait pas ce qu'ils disaient, comment ils parlaient, etc. à l'époque. Donc c'est que des théories, c'est que des extrapolations, et donc Moa, c'est une extrapolation basée donc, sur ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui est accessible à tous dans les musées, et notre imagination et nous, ce qui nous a semblé avec les autres co-créateurs réalistes.
J'ai vu les images, les décors sont absolument somptueux. D'ailleurs, ce n'est pas des décors. Où avez-vous tourné?
En Dordogne, donc dans le berceau de la préhistoire en France, à côté des grottes de Lascaux. On a eu accès à des sites naturels extraordinaires, dont le plus grand abri sous roche d'Europe, dans lequel on a tourné. Et c'est le premier tournage qui a accueilli à cet endroit-là. Et on a eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir profiter de tout ça.
Comment vous avez fait? Vous êtes aidé par le département, par
Bien
la
sûr,
région?
Oui, absolument. On est aidé par le département et par le bureau des tournages.
Les costumes et la région. Combien d'épisodes?
10 épisodes de 22-26 minutes.
Ouais. Et pour le plaisir, j'aimerais que vous donniez les noms des personnages. Je les ai devant moi, mais c'est à vous de les dire.
Alors, dans l'histoire, il n'y en a que deux qu'on nomme vraiment. Il y a Moa et Gawa.
Ouais.
Et les autres, après, pour le scénario et nous, pour les acteurs, on les nommait par rapport à leur particularité. Donc, il y en a un qui s'appelle Ok, qui a tout le temps le Ok. Il y en a une qui s'appelle La Belle. Bon, après, c'est les standards préhistoriques. Hein. Le Beau, pareil, standard préhistorique. Bec de Lièvre, donc voilà. Courageuse, la mère de Moa. Le Tueur.
Ouais.
La Myope.
Voilà.
Comment c'était d'être myope à l'époque? Ça devait pas être rigolo.
Ouais.
La Folle, mais qui est pas folle, en fait, qui a un abcès dentaire dont elle se remet pas, et à l'époque comment on faisait.
Ben oui, il n'y avait pas de dentiste. Stéphane Strano, demain, deux projections événements également aux Folies Bergères. À 18h, une avant-première de la série No Man's Land. Avant que vous me racontiez le pitch...
Co-présenté avec Série Mania, ouais. On est très heureux.
Juste un mot, donc il y a des projos, mais il n'y a pas de public. Donc qui est le public? Ce sont que les pros.
C'est l'ensemble des professionnels. Le principe face à la crise sanitaire, ça a été de se dire, on doit se rassembler tous les professionnels, parce qu'en dehors de cette crise sanitaire, si elle n'avait pas lieu, nous serions en pleine période de bouleversement. La réforme de l'audiovisuel public a été repoussée. On doit se retrouver avec à un niveau politique pour pouvoir discuter de notre avenir.
Il est même un peu question de politique dans cette série No Man's Land. Ça raconte quoi?
Je vais laisser aux professionnels le soin de découvrir chaque épisode.
Je veux dire, ce qui m'intéressait, ouais. C'est que c'est un jeune Français qui cherche sa sœur disparue. Et c'est documenté, c'est romanesque, et ça se passe dans les rangs des combattantes kurdes contre Daesh en Syrie. Parce que ce qui était assez remarquable, c'est que c'était notamment des femmes qui se battaient là-bas. Autre projet demain, vous êtes au
Félix
front.
Moati, Mélanie Thierry, qui participent au film, effectivement.
Quel autre programme vous avez envie de défendre, qui vous a vraiment séduit?
Alors, l'ensemble des programmes sont les programmes que chaque chaîne propose. C'est important de se dire qu'on est en train de se structurer entre professionnels. Canal+ va proposer Possession, qui est sa nouvelle série, qui est une coproduction haut et court, Caroline Benjo et Barbara, qui est une proposition extrêmement puissante. Et ensuite, chaque chaîne va proposer une série qui donnera l'avenir et la ligne éditoriale de leurs propositions.
Alors, je vais citer jeudi, on va voir, ils étaient 10 sur M6, peut-être savoir avec 10 petits nègres, qui a beaucoup fait parler récemment.
Vous voulez parler de Ils étaient 10
sur... Exactement, Ils étaient 10, non, j'en parle pas, je cite. TF1 va présenter Infidèle, France Télévisions va présenter Le Mensonge, j'aime beaucoup le titre de la série sur OCS, 3615, Code Monique. Merci beaucoup, Stéphane Strano, je rappelle que vous êtes président du Festival de Fiction de La Rochelle, qui se tient exceptionnellement à Paris, et puis Benjamin Rocher, créateur et réalisateur de cette mini-série assez remarquable, disponible sur OCS à partir du 1er octobre. Ça s'appelle Moa.
Merci beaucoup de votre invitation.
La préhistoire d'un mec, il y a 40